Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme d'habitude, ça me fait un grand plaisir de vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et c'est quoi? Bon, le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est où est Dieu dans la souffrance ou pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est une question qu'on se pose souvent. Et lorsqu'on souffre, c'est quoi la première question qu'on se pose lorsqu'il nous arrive une épreuve? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi encore? Il me semble que j'en avais. C'était suffisant, je n'avais pas besoin de ça. OK? Et on va regarder les paroles de Job. On se souvient que Job est un homme qui a souffert beaucoup et lui aussi a posé la même question. Malheureusement, le PowerPoint ne fonctionne pas ce matin. C'est pas à cause des techniciens, c'est ma faute. Parce que j'ai PowerPoint 2007, mais j'aurais dû l'enregistrer en 2003 pour que ça passe ici, puis ça ne passe pas. Donc, si vous voulez, ceux qui ont leur Bible, tournez dans Job, chapitre 10. C'est la version Colombe. Job, chapitre 10, versets 2 et 3. Job, chapitre 10, versets 2 et 3. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière ici, juste au-dessus de moi, les néons? Merci beaucoup. Donc, Job, il dit, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends en partie. » Donc, Job, dans sa souffrance, il dit à Dieu, « Dis-moi pourquoi, je veux savoir pourquoi je souffre, pourquoi tu me prends en partie. » Là, il dit, c'est comme, « Pourquoi Dieu, tu es contre moi? Dis-moi pourquoi Dieu, tu es contre moi. » Au verset 3, il dit, « Te paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants? » Donc, au début du verset 3, il dit, « Te paraît-il bien? » Donc, sais-tu bien qu'est-ce que tu fais? Donc, il remet en question qu'est-ce que Dieu fait. C'est sûr, lorsqu'on souffre, on dit à Dieu, « C'est-tu bien? Ça vaut-tu la peine? C'est-tu utile? Je me passerai de ça. » Donc, Job, qui était un homme intègre, un homme qui était près de Dieu, remettait en question toute la souffrance. Et vraiment, il a souffert, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il était atteint d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Sa femme était contre lui, ses amis étaient contre lui. C'était vraiment difficile. Mais première question, pourquoi? Et donc, je n'ai pas à me sentir coupable si moi aussi j'ai des pourquoi. Et vous avez sans doute des pourquoi lorsque vous souffrez. Et notre société de consommation nous enseigne aussi qu'on doit être heureux. Et lorsqu'on souffre, qu'on est malade, pourquoi? Parce que c'est le normal, ce serait que je sois heureux. C'est sûr que je suis fait, Dieu nous a fait pour être heureux, mais je crois que le bonheur complet n'est pas pour tout de suite. Dieu l'a mis en attente pour l'éternité. Lorsqu'on souffre et qu'on est responsable de la souffrance, c'est plus facile à accepter. Exemple, si je conduis mon auto à une vitesse excessive, j'ai un accident, puis là je suis infirme, je vais dire « Ouais, ben niaiseux, c'est ma faute. Okay? » Si je prends beaucoup d'alcool, j'ai une maladie du foie, ben là, je ne peux pas reprocher ça à personne. Par contre, si je souffre et que je ne suis pas responsable, là, c'est plus difficile à accepter. Mettons, un conducteur Yves qui va me frapper, puis moi, je suis blessé. Une maladie héréditaire, ça vient de mes parents. Pourquoi je suis né dans cette famille-là? Okay. Ça peut être un parent abusif aussi. Je subis tout ce que mon père ou ma mère a pu faire, là, verbalement ou physiquement. Donc, je ne suis pas responsable, je suis une victime. Donc, je souffre. C'est plus difficile à accepter. Des douleurs chroniques, la mort d'un proche, conjoint, enfant, d'un ami, une catastrophe naturelle qu'on n'y est pour rien, et il y a de la souffrance. Ça, c'est plus difficile à accepter. Quelle attitude les gens prennent vis-à-vis de la souffrance? Il y a des gens qui, à cause de la souffrance sur la terre, ils vont nier l'existence de Dieu. Ils vont dire, Dieu, il n'existe pas. Si Dieu existait, il ferait quelque chose pour que ça n'arrive pas. Donc, ils nient carrément l'existence de Dieu. Deuxième attitude, ça pourrait être, oui, je crois que Dieu existe, mais je ne veux rien savoir de lui parce que il n'y a pas d'affaire à permettre des choses comme ça. Si Dieu il nous aimait vraiment, il ne ferait pas des choses comme ça. Et on raconte l'histoire d'une actrice dont le compagnon de vie s'était noyé. Le gars, il était ivre mort, à moitié sous, puis il était sur son yacht, il est tombé par-dessus la rampe à l'eau, puis il s'est noyé. Et l'actrice, lorsqu'elle était interviewée, elle a regardé bien comme pour la caméra, elle a dit, « Comment est-ce qu'un Dieu bon peut permettre une chose pareille? » C'était pas à faute de Dieu, si lui était ivre mort. Puis, Puis cette femme-là, on présume qu'elle, bien souvent, Dieu n'était pas dans sa vie, elle n'en parlait pas. Mais quand le malheur arrive, là, c'est la faute de Dieu. Ça nous arrive souvent, quand il arrive une catastrophe, « Ah, pourquoi Dieu permet ça? » Mais autrement, on n'en parle pas. D'autres vont penser que Dieu nous aime, mais il a perdu le contrôle total. La planète est en rébellion à cause du péché, Dieu a perdu le contrôle. Quatrième, bon, on regarde au cours du message, c'est que Dieu nous aime et Dieu est au contrôle. Dieu est souverain et c'est lui qui a le mot de la fin. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé un monde parfait sans souffrance? Dieu aurait pu créer un monde où idéal, où il n'y a pas de souffrance. Et je n'ai pas l'intention ce matin de répondre à toutes les questions concernant pourquoi la souffrance existe. C'est sûr qu'on va avoir des questions toute ma vie, vous allez en avoir vous aussi toute votre vie. Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Mais dans le fond, Dieu avait créé un monde idéal. Donc, regarde ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait un monde? Il a créé un monde idéal à Adam et Ève, il nous l'a donné. Mais Dieu nous a fait un cadeau aussi qui est la liberté. Dieu n'a pas voulu créer des robots, a voulu créer des gens qui étaient capables d'aimer, des gens qui étaient capables de se reproduire, qui étaient capables d'avoir des émotions, qui étaient capables de décider, de faire des choix par eux-mêmes à l'intérieur des limites que Dieu avait établies. Sauf que Dieu a pris un risque qui était calculé en ayant des êtres semblables à lui, capables d'aimer, capables d'échanger avec. Il a pris un risque dans le sens que cette liberté-là faisait qu'on pouvait se tromper et qu'on pouvait mal agir et qu'on avait une certaine indépendance. Donc, Dieu a créé des êtres qui étaient jusqu'à un certain point indépendants de lui. Mais il lui a dit, fais attention à ça, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il l'a averti. Possibilité, l'homme était libre, l'homme s'est rebellé contre son créateur. Donc Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas su résister à la tentation, malgré toutes les mises en garde que Dieu lui avait faites. Conséquence, le péché est entré dans le monde, et c'est ça, la liberté, ce que Dieu avait établi comme règle, ça n'a pas empêché Adam et Ève de tomber dans le péché. Là, on peut dire, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas arrêtés? Quand Satan a tenté Ève et Adam, pourquoi Dieu n'est pas arrivé et dit, hey, « Oh, c'est pas ça que j'ai dit! » Dieu l'avait dit, et Dieu nous a donné une mémoire, et Dieu savait qu'il l'avait dit à Adam et Ève. Puis Ève l'a répété même au diable. Dieu a dit, « Si on en mange, on va mourir. » Non, c'est pas ça que Dieu dit. Donc, Adam et Ève n'ont pas fait confiance à Dieu. Les maladies, les catastrophes naturelles, puis la corruption qu'on a dans notre société, dans le fond, ce sont des symptômes d'une maladie qui est plus grave, c'est-à-dire la rébellion de l'homme contre son Créateur. Les conséquences de la rébellion, le péché est entré dans le monde. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Le sol a été maudit. Dans le sens que le travail est devenu plus pénible. Dieu a dit, tu gagneras désormais ton pain à la sueur de ton front. Les accouchements sont devenus plus difficiles. Et c'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expérience personnellement de l'accouchement, mais j'ai vu quand mon épouse a accouché à 3 reprises, et c'était quelque chose, Et si bien que quand elle est venue pour accoucher du deuxième, puis les contractions ont commencé, j'ai dit, oh non, pas ça encore, que ça en vient. Puis là, le Seigneur aide-moi, je ne suis pas capable, parce que j'avais été un peu comme traumatisé la première fois. Là. Je ne m'attendais pas que ça serait aussi élevé que ça. Puis là, le Seigneur m'a montré la vie sur terre. Il y a la vie, mais la souffrance fait aussi partie de la vie sur terre. Accepte-le. Je l'avais accepté et je suis allé, ça m'a donné la paix. Et cet accouchement-là a été le plus facile pour mon épouse. Et je me souviens, une petite anecdote, le premier accouchement, bon, Marjorie avait beaucoup de douleurs, ça a pris 30 heures là, du début à la fin. Puis on était dans la chambre, puis là ça se lamentait, ça faisait mal. Puis à Saint-Anne-des-Monts-Gaspésie, c'est un petit hôpital, un très bien traité, mais il y a toutes sortes de membres sur l'étage. Il y avait l'obstétrique, là, la madame qui accouchait. C'est ça l'obstétrique? Oui. Puis il y avait aussi les gens qui étaient en perte d'autonomie au niveau cognitif. Puis c'était pas nécessairement fermé. C'était qu'il y avait un monsieur qui rentrait dans la chambre. Puis là, il nous regardait, puis regardait ça. Là, tu sais, c'était pas trop intime. Là. Fait que, prenant le monsieur, allez-vous-en, calmez-vous tranquillement. Il a fait ça deux fois. Puis là, plus ça allait, plus je me disais, voyons, ça va-tu fonctionner? Les travails avançaient, mais ça ne passera jamais par là, là quand tu n'as jamais vécu ça. Puis j'étais un petit peu angoissé. Le monsieur revient encore, troisième fois. Là, je n'étais plus capable. J'ai dit, je vais mettre un peu d'adrénaline. Là. Il va s'en rappeler. Si ça ne s'en rappelle pas ici, il va se rappeler au moins au niveau des émotions que s'est passé quelque chose. Je ne vais pas avoir le bras, le monsieur, là, vous revenez pas, là. Puis je l'amène jusqu'à la porte, puis là, je le pousse un peu dans l'entrée. Mais comme j'arrive dans l'entrée de la porte, de la sortie, là, l'infirmière arrive. Monsieur Gaudreau! Oups. Là, j'étais mal, ça va pas bien. La femme qui est en douleur, le monsieur vient de me déranger, ils ne sont pas capables de s'en occuper. Mais j'ai appris par rapport que monsieur Gaudreau, c'était pas moi, c'était lui. Coïncidence! Là, il me dit peut-être dans 20 ans, 30 ans, ça va être moi, le monsieur Gaudreau, qui va faire ça. Donc, pour revenir à la souffrance, soyons sérieux. Dieu peut utiliser la souffrance pour produire du bien. Donc, on va regarder le côté positif de la souffrance. Excusez. La souffrance, ça a comme un but, c'est de nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pensons dans notre corps, lorsqu'on a une souffrance, des fois, ça nous avise qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Ça m'informe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et ça m'amène à changer ce qui cause la douleur, changer mes habitudes, mes activités. La réaction est souvent de prendre un médicament pour enlever la douleur. Puis là, on fait fi de la douleur puis on continue avec ça. Ça ne veut pas dire de prendre des médicaments. Si on a un super gros mal de tête, moi j'en ai des fois, puis je suis bien content d'avoir les médicaments. Mais il faut essayer de voir qu'est-ce qui cause ça. Donc, l'avertissement, la douleur est un avertissement, et le médicament va désactiver le système d'alarme, et bien souvent, on n'a plus le message. Je donne un exemple, c'est un joueur de basket vedette de la NBA qui avait une blessure très très grave à la cheville. Et il y avait une game importante, puis il voulait jouer absolument. Fait qu'il a dit au médecin traitant, tu vas m'engourdir la cheville pour que je puisse continuer à jouer. Fait que le médecin il a mis un anesthésiant très fort, trois piqûres dans trois endroits du pied. Et le joueur est parti jouer. Puis pendant la partie, il a frappé le ballon à un moment donné très fort, puis ça a fait crac. Mais il a continué à jouer pareil. Il a fait deux longueurs de terrain. Puis à un moment donné, il s'est effondré. Et c'est qu'en frappant le ballon, il s'était cassé le pied. Mais là, il n'a rien senti. C'est plus tard, à un moment donné, ça ne supportait plus, il est tombé. Puis ça a mis fin à sa carrière. Donc, le fait de ne pas avoir écouté la douleur, de l'avoir engourdi, ça a créé des dégâts irrémédiables. D'autres exemples, si j'ai de l'angine de poitrine, ça veut dire que les vaisseaux sanguins qui mènent le cœur au sang sont en train de se boucher. Donc, le sang? Le cœur au sang? Excusez, le sang. Je vais enlever mon chandail, peut-être j'ai la chaleur. J'avais peur d'avoir froid avec l'air climatisé. Mais si, il ne paraîtra pas. Bon, c'est ça. Vous avez compris que l'angine, c'est le sang qui ne passe pas tellement bien et ça peut amener une crise cardiaque. Donc, ça amène à se faire soigner pour se faire détendre les artères. Ensuite, j'ai une douleur à l'épaule. Supposément, si j'ai une tendinite, admettons, et je n'ai pas de douleur, je continue à l'utiliser. Si je n'ai pas de douleur, ma nuque va ankyloser complètement. Donc, la douleur fait que, là, je ne l'utilise pas, ou je fais des exercices, ou je vais voir un spécialiste qui va m'arranger ça. Un appendice qui crève. Si l'appendice crève, il n'y a pas de douleur, qu'est-ce qu'on fait? On meurt parce qu'il y a plein de liquide, pas corrosif, là, mais poison qui se répand à l'intérieur du corps. Donc, la douleur va aider. On parlait l'autre jour avec notre frère Joseph Aubu, là, qui a eu un affaissement pulmonaire. S'il n'y avait pas eu de toux bizarre ou de douleur, il ne serait pas allé voir à l'urgence. Moi, j'ai des maux de tête assez souvent, et c'est un peu mieux, là. Mais les maux de tête étaient comme une alarme, là. Ça veut dire diminue, parce qu'au travail, j'étais souvent stressé, je voulais tout faire en même temps. Et là, je me dis, si je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai à soir. Mais, donc, les maux, ça nous aide. Mais je ne veux pas dire que la souffrance, il faut s'en réjouir. Parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, des choses qui ont des problèmes, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est vraiment affligeant. On a découvert que la principale cause de la lèpre, c'était l'absence de douleur. Une personne, la lèpre, ça rend le système de perception déficient. Ça rend insensible les mains, les pieds, le nez, les oreilles, même les yeux. Donc, un lépreux qui son œil est insensible, il peut avoir une graine dans l'œil, il ne s'en rend pas compte. Donc, à un moment donné, son œil va venir rouge, irrité, enflé, et il y a du pus. Et c'est quoi? Ça, c'est la lèpre. Mais c'est parce qu'il ne sentait pas, puis il n'a pas enlevé ce qu'il y avait dedans. Il y a un exemple d'un homme qui était en train de pelleter, puis il y avait un clou après sa pelle. Puis il avait la main toute brisée, déchirée, puis il ne s'en rendait pas compte, il continuait. Nous, quand on se pique et ça fait mal, des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais à un moment donné, on finit par s'en rendre compte. Il y a un docteur qui étudiait les lépreux, le docteur Brand. Lui, il dit qu'à un moment donné, il essayait d'ouvrir une porte qui était barrée avec un petit canot qui était rouillé. Puis lui, il essayait de tourner la tête, il n'était pas capable. Puis un jeune qui est arrivé, tout maigre, mal nourri, puis il dit, il était lépreux. Il l'a ouvert, lui, comme ça. Mais il s'est aperçu, le docteur s'est aperçu qu'il s'était fendu le doigt jusqu'à l'os. Parce qu'il ne sentait pas. Nous, quand on force et ça fait mal, on arrête consciemment ou inconsciemment. Alors que lui, il n'avait pas arrêté et s'était fendu. Donc, les sensibilités qu'on a au bout des doigts, un peu partout, c'est utile. Donc, l'absence de sensibilité, l'absence de douleur, quand on a la chaleur, on se brûle, on s'enlève, on ne reste pas là pour ne pas empirer. Donc, la douleur est une sirène qui nous avise qu'un organe ou un membre du corps est attaqué ou en danger. La question qui tue, est-ce que la souffrance est une conséquence directe de mon péché? Je souffre, c'est parce que j'ai péché. J'ai un accident grave, c'est parce que j'ai un péché dans ma vie. Je vais simplement vous résumer le verset. Dans Jean 9, vu qu'on n'a pas de PowerPoint, là, Jésus vit un passant aveugle de naissance. Ses disciples lui ont dit, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus dit non, il n'y a pas personne qui a péché pour qu'il soit né aveugle, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, dans le sens que je vais faire un miracle et Dieu va être glorifié. Dans Luc chapitre 13 aussi, on a les Galiléens qui ont été tués par Pilate et 12 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé. Et Jésus a dit, croyez-vous qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres? Même chose, les World Trade Center, ceux qui sont morts. Les personnes-là n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres. Même Job était un homme juste. Dans Job 1:8, nous lisons, « L'Éternel dit à Satan, c'est Dieu qui parle, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Donc Job est un homme qui s'écarte du mal, un homme intègre, et il a souffert comme pas un n'a souffert sur la surface de la terre. Donc la souffrance n'est pas une conséquence directe du péché. La souffrance, ça fait partie de la vie ici-bas et les chrétiens, nous n'en sommes pas exempts. Et si tous les chrétiens n'avaient jamais d'épreuves et de souffrances, tout le monde voudrait être chrétien, mais ce ne serait pas pour les bonnes raisons. Ceci dit, on doit admettre qu'une partie de nos souffrances sont causées par nos péchés ou par notre tête dure. Okay. Dans la souffrance, Dieu parle, Dieu discipline, Dieu transforme. Et comme la souffrance physique est un système d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose dans le corps qui ne va pas bien, l'épreuve est souvent un temps de réflexion qui nous aide, que Dieu utilise pour nous dire, « Oups, il y a peut-être des choses que tu peux reconsidérer ou changer dans ta relation avec moi. » Et nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous reprend, et Dieu n'a pas un plaisir sadique à nous faire souffrir, mais c'est comme un père aimant qui corrige ses enfants. C.S. Lewis disait, « Au milieu des plaisirs, Dieu chuchote. À notre conscience, il parle. Mais dans la souffrance, il hurle. La souffrance est son mégaphone qu'il utilise pour réveiller un monde de sourds. » Donc Dieu utilise la souffrance souvent pour nous ramener à lui, nous réveiller. Si vous voulez, on va tourner un texte dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Où on parle de la correction de Dieu. « Donc, le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, c'est par amour que Dieu peut permettre des choses pour nous discipliner. Il nous considère comme ses fils. Supportez le châtiment. OK, verset 8. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, si le Seigneur vous éprouve pour vous reprendre, ça veut dire que vous êtes son fils ou sa fille. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ici, il y a une partie du réponse au pourquoi. Là. Pourquoi ça arrive? Pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous voit des fois tout croche, ou qu'on est rebelle, tête dure. On a besoin d'avancer davantage dans notre vie chrétienne. Et Dieu veut qu'on soit davantage saint. Il dit, soyez saint, comme je suis saint. Et puis, il veut nous faire participer à ce qu'il est davantage, sa sainteté. Et il y a des épreuves. Et combien de témoignages on a entendu de personnes qui avaient souffert, puis qui remerciaient Dieu pour la souffrance. Pas dedans, mais après. Il dit, merci parce que tu m'as rapproché de toi. Merci parce que je suis une personne différente maintenant. Je suis plus près de Dieu. Verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Donc, c'est vrai qu'une épreuve, une souffrance, c'est la tristesse, c'est dur, et non de joie. Mais, il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, le fruit mûr vient plus tard, avec le temps. Aussi, on ne tournera pas dans l'Apocalypse, chapitre 3, Jésus dit, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Je corrige tous ceux que j'aime. » On a vu que la première chose de la souffrance, c'est de nous avertir. Deuxième, nous transformer. Nous transformer. On peut tourner encore dans nos textes bibliques. C'est 1 Pierre. 1 Pierre, verset 1. Première épître de Pierre, verset 1. PowerPoint, il parle pas mal, mais... Donc, première épître de Pierre, le chapitre 1 et le verset 6 et 7. Je lis ici. « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut afficher par diverses épreuves. » On voit que c'est temporaire. Relativement court comparé à l'éternité. Verset 7. « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable. » Ici, il y a l'ironie de Dieu parce que l'or est qualifié de périssable. Sur la terre aujourd'hui, y a-t-il quoi de plus durable, qui a plus de valeur que de l'or? Mettons, on fait comme des alliances avec ça. Ça ne rouille pas. C'est solide. Si vous prenez les nouvelles le soir, on parle de la bourse puis la valeur de l'or. L'or est une valeur sûre, qui est solide. C'est un matériau le plus précieux qui existe. L'or, humainement parlant, quand on parle, c'est pas périssable, ça s'en va pas. Mais comparé à une foi éprouvée par l'épreuve, l'or, elle est périssable, elle est rien, si on la compare à une foi que Dieu a éprouvée. Ensuite, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Donc l'or est éprouvé par le feu, comment est-ce que l'or est purifié? C'est le feu qui enlève les impuretés. Donc notre foi, comme l'or, elle est éprouvée par le feu afin d'enlever les impuretés. Donc, l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ça va produire, la foi éprouvée par l'épreuve? Louange, gloire, honneur. Ce ne sont pas des mots creux, ça. Aimeriez-vous ça aujourd'hui, être loué, avoir beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur, être une vedette que tout le monde aime? C'est ça, la gloire, honneur, louange. C'est ça. Combien recherchent ça? Les gens qui se lancent dans Star Academy, là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est « Ouh, que le monde m'aime, que le monde me loue. » Que... Donc, on a tous un besoin d'être loués, glorifiés, honorés. Mais là, ça nous dit ici, la parole de Dieu nous dit que si on souffre, que notre foi est éprouvée, on va avoir la louange, la gloire, l'honneur plus tard. J'ai de la misère à comprendre mais comment on va être aussi glorifié que dit la parole de Dieu. Ça me frappe toujours ces versets-là qui parlent de l'héritage à venir, l'héritage de gloire. Dieu va partager sa gloire avec nous autres. Hey, la gloire de Dieu, il va la partager avec nous autres. J'ai de la misère à imaginer ça, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible jette une lumière différente sur la souffrance. Ça va se transformer en un sujet, un poids, Paul disait même, un poids éternel de gloire. Ça va être vraiment merveilleux. Vous connaissez sans doute l'histoire de Johnny. Il y a eu un livre décrit là-dessus. C'est une jeune fille qui a eu un accident de plongeon. Elle a plongé sur le quai, mais il n'y avait pas assez d'eau. Elle s'est mal fait une erreur. Et elle est devenue tétraplégique. Elle ne bouge pas les jambes, la tête bouge, les bras, elle a de la misère, parce que lorsqu'elle veut peindre, elle peint avec sa bouche et un pinceau. Là. Et elle a eu de la misère à concilier ce qui lui arrivait avec sa foi en un Dieu d'amour. Et elle a eu de l'amertume beaucoup, et ça a pris 3 ans environ avant qu'elle accepte sa condition. Et elle s'est tournée progressivement vers Dieu. Et une chose qui l'a aidée, parce qu'elle, après l'accident, là, ils l'ont rasé, ils l'ont opéré, ils ont mis des pines de fer sur le bord de la tête pour la soutenir la tête. Puis elle était attachée là, à une planche. À toutes les 2 heures, ils viraient la planche de bord. Fait qu'elle voyait le plancher, puis après ça, elle voyait le plafond. À toutes les 2 heures. C'était ça, sa vie. Et une amie l'a encouragée en lui disant, « Tu sais, tu n'es pas la seule à souffrir. Jésus aussi a souffert. Jésus a été paralysé aussi sur la croix. Jésus, il n'y avait pas grand latitude sur la croix. Il était attaché là. Il bougeait un peu pour être capable de respirer. Mais lui aussi, il était paralysé sur la croix, attaché là. Et ça, ça lui a dit, « Bon, Jésus connaît ma douleur. Lui aussi, il a souffert pour moi. » Et à partir de là, même la souffrance qu'elle avait, là, ça l'a aidé à se tourner vers Dieu. Et dans une petite brochure que j'avais ramassée ici, là, êtes-vous bien traité, le petit kiosque en arrière? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est ministère RBC. Et il y a beaucoup d'éléments de mon message que j'ai pris là-dedans. C'est très, très bon. Je vous encourage à le regarder. Pourquoi Dieu permet un Dieu bon permet-il la souffrance? Et il parlait du témoignage de Johnny, et c'est écrit là-dedans, je cite, « Au lieu de continuer à chercher la raison de ce terrible accident, Johnny a été forcé de dépendre encore plus du Seigneur et de voir la vie d'un autre œil, selon une perspective à long terme. » Parce que qu'est-ce qu'elle regardait maintenant dans son corps, c'était pas beau. Mais elle a regardé la vie dans un autre œil, qui était l'œil de Dieu, et elle a vu l'espérance à long terme qui lui était réservée, et ça l'a rendue heureuse. Et aujourd'hui, elle dit que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Oui, oui, oui. Meilleure chose qui soit jamais arrivée, un accident tétraplégique. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On ne veut pas le bonheur à long terme. On le veut tout de suite, puis on paye à long terme. Au contraire. Soyez heureux, vous avez votre bien, puis pas grave, on paye 50, pardon, 48, 72, 96 mois, mais vous l'avez tout de suite. Alors que le plan de Dieu, c'est souffrance tout de suite, mais le bonheur à plus long terme. Et Dieu s'est servi de l'accident de Johnny pour captiver son attention et la rapprocher de lui. Un autre auteur, Philippe Yancey, qui a fait un livre « Où est Dieu dans l'épreuve? » Il a interrogé le docteur Brand, que j'ai parlé tout à l'heure, pour savoir si la souffrance avait rapproché ou éloigné les croyants. Voici qu'est-ce qu'il dit. « Avec le temps, certains se rapprochaient de Dieu à cause de souffrance. D'autres s'en éloignaient avec amertume. Ce qui différenciait ces croyants, c'était l'objet de leur préoccupation principale. Ceux qui ne cessaient de s'interroger sur la cause. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Est-ce une punition? » Ceux qui posaient toujours des questions, pourquoi c'est arrivé? Pour que ceux-là finissaient souvent par se retourner contre Dieu, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Par contre, les affligés les plus victorieux étaient ceux qui recherchaient la meilleure façon de réagir et qui faisaient confiance à Dieu en dépit des circonstances douloureuses dans lesquelles ils se trouvaient. Donc, au lieu de se plaindre sur leur sort, ils essayait de regarder quelle façon il devait réagir, qui était, même s'il ne comprenait pas tout, comment est-ce que je dois réagir, comment doit être mon attitude maintenant? Et ceux-là s'en sortaient. Personnellement, quand je souffre, moi, je veux en sortir au plus vite. On est tous pareils. Quand ça fait mal, puis c'est pas le fun, ça gâche la vie, la qualité de la vie. Donc, quand on souffre, on veut en sortir. Et j'ai une citation ici qui dit, « Mieux vaut rencontrer Dieu dans l'épreuve que d'en sortir. » Donc, nous, on veut en sortir, puis Dieu veut nous rencontrer dedans. Okay? Une autre citation que j'ai prise dans notre pain quotidien, mois d'août 1991, ça dit, « Bien qu'il veuille que nous soyons heureux, Dieu se soucie davantage de nous rendre saints. » Dieu veut qu'on soit heureux, mais il veut davantage qu'on soit saints. Et comme j'ai dit, on entend souvent des témoignages de chrétiens qui se sont vraiment rapprochés de Dieu à cause de la souffrance. Encore citation de M. Yancey, dans son livre « Où est Dieu dans l'épreuve », il dit « La réalité de la souffrance suscite la perplexité ou la colère des personnes qui considèrent l'être humain comme une créature achevée qui a besoin d'un milieu adapté. » Ça veut dire, on est achevé, on est correct, on n'a pas besoin de changer, on est assez bon de même. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Ce sont les circonstances, parce que c'est ça qu'on mérite. On continue. Dans une perspective chrétienne, un professeur, John Hick, dans son livre « Philosophie de la religion », il dit « Dieu a affaire à des créatures inachevées. L'environnement qu'offre cette terre est censé forger des âmes. » Donc, au lieu de dire « on est achevé, on est correct », il faut que les circonstances soient modifiées. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit « non, 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 on a besoin d'être formé, on a besoin de forger nos âmes. » Et l'environnement dans lequel on vit, l'environnement que Dieu nous, dans lequel il nous met, aide à nous devenir plus saints, à forger nos âmes. Et la souffrance nous rappelle notre fragilité. Parce que, dans le fond, on vit comme si on était immortel, tu sais, on veut amorcer des choses, on n'a pas l'impression qu'on va mourir un jour. Quand on pogne la cinquantaine, on y pense plus. Tu dis, non, j'ai peut-être la moitié de fête, là. Ça, tu vois que ça a passé vite. Et je vais citer un verset ici, dans 2 Corinthiens, je ne le lirai pas tout, là. C'est Paul qui dit, on ne veut pas vous laisser ignorer qu'on était accablés à l'extrême, il y a eu beaucoup de tribulations, et ils ont même désespéré de conserver la vie. Tellement Paul était persécuté qu'à un moment donné, il dit, on va mourir. On va mourir, puis on comprend que Paul était déjà lapidé, puis était fouetté, fait que c'est normal qu'il pensait qu'il allait mourir. Ensuite, il rajoute, « Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Donc, Paul savait, pensait qu'il allait mourir à ce moment-là, puis il ne passait aucunement sa confiance en lui. Qu'est-ce qui le rendait heureux, qui le soutenait? C'était de savoir que Jésus-Christ allait le ressusciter un jour. Donc, il n'avait pas peur de continuer. Donc, ce n'était pas sa vie terrestre, là, sa puissance sur terre, qu'il a, même si le Seigneur l'utilisait avec force pour faire des miracles, ce n'était pas sa puissance qu'il avait, mais c'était vraiment de savoir que Jésus-Christ, que Dieu allait le ressusciter des morts. C'est ça qui le soutenait. La souffrance me rappelle ma fragilité. Ça me force à revoir mes priorités. Quand je souffre, je remets mes priorités. Quand ça tout va bien, hop, j'ai d'autres priorités. Quand je souffre, je change mes priorités. Ça change mes valeurs, mes buts, mes aspirations. Ça remet en question mes sources de motivation. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Ça transforme aussi dans ma relation avec les autres et avec Dieu. Des gens qui ont souffert beaucoup, quand vous entrez en relation avec eux, sont comme plus paisibles, sont moins portés à juger, plus miséricordieux. Il y a une paix qui est là. Donc, Dieu travaille sur ma réaction, sur mon attitude. Et quand je parle de souffrance, ce n'est pas nécessairement une souffrance physique. Vous pouvez souffrir à l'école à cause du taxage, vous pouvez souffrir l'injustice au travail. Et une injustice au travail, c'est long, parce qu'on y va chaque jour, chaque semaine. Et c'est là, puis on doit continuer à travailler, il faut gagner notre vie. L'injustice est là, puis on l'a subi. Ça peut devenir très lourd. Et combien il y a de cas de burn-out, d'épuisement professionnel aujourd'hui? Une des conséquences, c'est pas nécessairement le fardeau de travail, mais c'est l'injustice au travail. La souffrance peut être un conjoint qui est violent verbalement. Peut-être que vous souffrez parce que vous n'aimez pas votre apparence physique. Il y a n'y a pas personne qui aime son apparence physique à 100%. Même les vedettes d'Hollywood changeraient plein de choses sur leur physique. Pourquoi je parle de ça? Parce que on pourrait être porté à envier les autres qui sont plus beaux ou plus belles, plus minces, plus costauds, plus en santé. Donc, on n'accepte pas toujours à 100% le corps que Dieu nous a donné. Et je crois que j'ai réalisé que Dieu permet ces différences-là pour nous former. Dieu n'a pas fait qu'on était toutes pareilles, standards. Dieu a permis qu'il y en avait que dans certains domaines, ils étaient meilleurs, ils étaient plus beaux, plus fins, plus intelligents, d'autres moins. On est là pour se compléter, s'aider. Et le plus fort va aider le plus petit. Et il est là, c'est le Seigneur l'utilise. Mais Dieu me fait réaliser que l'important, ce n'est pas ce que j'ai, ce que je n'ai pas, mais c'est quoi mon attitude. Donc, Dieu m'a fait différent des autres. Il y a des gens qui ont plus que moi. Mais comment je réagis face à ça? Donc, je remets ça au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est mon attitude qui veut travailler. Et c'est pour ça que Dieu permet ces différences-là. Ah, pourquoi j'ai tel trait de physique? Dieu permet ça. Il veut travailler mon attitude. Et Dieu ne l'enlèvera pas. Mais il veut me faire grandir à travers cela. Sinon, si j'ai envie les autres qui ont qu'est-ce que je n'ai pas, là je passe à côté du but visé par Dieu. Dieu a un but, il ne faut pas que je le manque. Deux types de réactions face à la souffrance, me lamenter, me plaindre, ne pas accepter, en vouloir à Dieu. L'autre réaction, considérer plutôt le plan à long terme de Dieu, le plan qu'il y a pour moi. Donc, la souffrance m'oblige à aller au-delà des circonstances. Parce que comme Johnny, elle n'était pas heureuse dans ce qu'elle avait, mais sa souffrance lui faisait mal. Comme on a vu Mme Kim Fook qui disait qu'elle continuait à souffrir quand il annonçait du mauvais temps, elle souffrait dans son corps. Et je crois que si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'on a pu constater quand elle est venue, une partie c'est dû à la souffrance qu'elle a, qui fait que, la vie, ça ne peut pas être juste ça. La vie, c'est différent. Et ça l'a rapproché beaucoup de Dieu. La souffrance me fait réaliser que la vie sur terre, elle est courte, que je suis de passage ici-bas. Une citation de M. R. D. Anne dans son petit livre, Brisement. Pourquoi souffrons-nous? On avait ça aussi dans la petite brochure, je vous ai parlé tout à l'heure. Là. Je vais vous la citer. Il dit, « Les sermons les plus magnifiques que j'ai jamais entendus ne provenaient pas du haut de la chair, mais du fond de lit de malade. Les vérités les plus grandes et les plus profondes que la parole de Dieu ne sont souvent pas révélées par ceux qui prêchent en raison de leur préparation et de leur formation dans des séminaires, mais par des âmes humbles qui ont passé par le séminaire de la souffrance et ont expérimenté elles-mêmes la profondeur des voies de Dieu. » Donc, les sermons les plus magnifiques que j'ai entendus, c'était de la part des gens qui ont souffert. Et c'est ça qui l'a transformé le plus. Nous lisons dans Romains 8, 18, Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent, vous savez c'est quoi les souffrances du temps présent, vous souffrez? » Il dit, « Ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est comme tu dis, ça ne peut pas être comparé à la gloire, tellement ça va être grand, cette gloire que Dieu en réserve pour nous. Comme je vous dis, j'ai de la misère à saisir combien ça va être grand, cette gloire-là, mais ça est là, c'est en réserve. Monsieur Warren Wiersbe, dans son livre « Why Us? Pourquoi nous? » Il dit, « Ce n'est pas en intervenant continuellement ni en empêchant les événements de se produire que Dieu démontre qu'il est souverain. » Il montre plutôt qu'il est souverain en étant maître des circonstances, en l'emportant sur elles, de sorte que les tragédies elles-mêmes finissent par accomplir ses desseins ultimes. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu utilise les circonstances de la vie pour nous faire prendre la maturité, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Dieu veut accomplir son plan éternel. Et nous, on n'a pas toujours la vision d'éternité. On a une vision temporaire, temporelle, humaine et terrestre. Mais Dieu, lui, a une vision d'éternité. Et quoi que nous ayons son esprit en lui, nous sommes ses enfants de Dieu, on est porté à oublier ça trop souvent. Parlons du Vendredi Saint. On pourrait peut-être plutôt le Vendredi Noir, parce que ce n'était pas nécessairement saint cette journée-là, c'était vraiment un Vendredi Noir. Jésus a souffert atrocement à la croix, jour de souffrance, jour d'angoisse. Jésus a été abandonné par tous ses amis, ses disciples qui l'avaient suivi. Tout le monde l'a abandonné. Même son père. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné par son père. Dieu était absent et silencieux. Jésus souffrait sur la croix. Et cette journée-là, le mal semblait triompher du bien. Le diable semblait avoir la victoire. Enfin, jeté, tu es mort sur la croix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez, vous souffrez, et vous vivez un peu ça. Souffrance, angoisse, Dieu est silencieux. Il ne se passe rien. Dieu est absent. Où est Dieu? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Et le malheur semble plus grand que le bonheur, ou le malheur semble triompher dans votre vie. C'est épreuve par-dessus épreuve. Et vous ne voyez pas de but. On dit ça, des fois, il n'y a pas de but. Vous ne voyez pas de but dans ce que Dieu permet. Où tu t'en vas avec ça, Dieu? Si on vient au Vendredi Saint, les disciples ont dit, c'est fini. Même si Jésus les avait avertis avant. Les disciples du chemin d'Emmaüs qui ont dit, Jésus, tu ne sais pas ce qui vient d'arriver à Jérusalem, là, Jésus-Christ qui a fait tant de miracles. Jésus qui a fait tant de miracles. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis sur la croix, c'est fini. On n'en parle plus. Non. La résurrection est venue donner un sens à l'agonie, à la souffrance de la croix. Quand Jésus était dans la souffrance, pour lui c'était difficile, pour ceux qui étaient autour aussi croyaient que tout était fini, mais à cause de la résurrection, ça a venu donner un sens à toute cette souffrance-là, à cette mort sur la croix, à cette victoire pour le péché. Donc, quand Jésus paraissait le plus faible, le plus souffrant, le plus rien, c'est là qu'il a vaincu la mort. Nous lisons dans Colossiens 2,15, « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les forces maléfiques là, du monde céleste. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Donc la croix, c'est une victoire que Jésus a emportée à la croix. Alors que, humainement parlant, c'était vraiment la pire des défaites. Lui qui avait fait des miracles, qui a fait plein de choses, qui avait failli devenir couronné roi. Donc c'était une pire des défaites, alors que c'était une victoire. C'est sûr qu'on ne peut pas se réjouir de la souffrance comme telle, mais on peut se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Et on doit célébrer l'issue finale de la souffrance et non pas le processus douloureux en cours là, dans lequel on est. Et Dieu nous invite à nous réjouir en espérance, à cause du bonheur qui nous est réservé. Dans Romains 12, Paul dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, dans l'épreuve. » Réjouissez-vous en espérance, réjouissez-vous à cause de ce que vous savez qui va arriver plus tard. L'espérance, ce n'est pas aujourd'hui. Comment on peut l'espérer si on ne l'a, disait pas, l'espérance, c'est plus tard. Donc, on se réjouit à cause de ce qui va arriver. Et se réjouir, ce n'est pas une incitation masochiste à prendre plaisir à la souffrance. Quand on souffre, ça fait mal. On veut en sortir, on n'aime pas ça, et c'est difficile. Donc, c'est pas dire « Ah, je suis content de souffrir ». Non, on est tous tristes. Puis la tristesse, la souffrance, ça procure la tristesse, la douleur, les pleurs, les larmes, les angoisses. Et on n'a pas à se comporter comme si on était heureux alors qu'on a la détresse et la souffrance dans notre cœur, puis on a le goût de pleurer. C'est dire, hey, oui, la gloire éternelle m'est réservée, mais là, je souffre cruellement. Bravo, yeah! On peut pas, c'est pas ça, mais je souffre, mais dans ma tête, dans mon cœur, je sais que c'est passager. Et ça me donne la paix. Parce que la lumière, la Bible met la lumière ou le spot sur le résultat final. Moi, je regarde aujourd'hui ce que je vis, alors que la Bible me dit, réjouis-toi, regarde la gloire qui t'est réservée, regarde le bonheur que tu vas avoir lorsque tu vas être dans la présence de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Donc, tout ça, ça nous permet de regarder la douleur comme une souffrance, comme un sujet de joie et non pas de tristesse. Et pour ça, pour que Jésus puisse produire ce résultat dans notre vie, il faut lui faire confiance. Et je crois que c'est l'élément clé. De dire, Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance parce que tu sais où tu t'en vas. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis dans la brume, dans le brouillard. Toi, tu sais où tu t'en vas. Je te fais confiance. Et à travers ça, Dieu va nous changer, il va nous donner la paix, malgré que la souffrance va être encore là, puis qu'elle va être dure, puis qu'on va vouloir l'enlever. Mais c'est un acte de confiance, de foi. C'est ça qu'on appelle la foi éprouvée. Faire la foi, croire en Jésus-Christ, même si ça fait mal. Et comme je dis souvent, la foi, c'est pas dire « je prie, puis Dieu exauce ». Ah, là, c'est quand Dieu répond pas tout de suite, continuer à avoir confiance en Dieu, ça, c'est la foi éprouvée. Donc, peut-être que vous êtes arrivé ici ce matin avec un lourd fardeau et que vous ne comprenez pas pourquoi vous souffrez puis que vous en voulez à Dieu. Vous en voulez à Dieu pour permettre cela. Laissez-moi vous dire que Dieu est conscient de votre souffrance. Même si Dieu semble absent, silencieux, Dieu est conscient de ce que je vis, de ce que vous vivez, des tiraillements, des souffrances, des épreuves. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et lorsqu'on lui fait vraiment confiance, Dieu va nous consoler. Dieu est capable de nous consoler. Mais ce matin, moi, je vais vous inviter à regarder plus loin que la souffrance. Vous réjouir en espérance de ce qui va arriver, en espérance de la sainteté. Comme je disais tout à l'heure, moi, quand je suis dans la souffrance, je veux en sortir. Mais Dieu, lui, il veut me rendre plus saint. Je ne suis pas préoccupé d'être plus saint, on dirait. Être plus riche, oui. Plus fin, plus beau, oui. Plus sain. On dirait que ce n'est pas une priorité. Ça se peut-tu? Mais Dieu, lui, c'est sa priorité. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous rendre plus saints. Donc, la souffrance, bien souvent, nous aide à aligner nos priorités sur celles de Dieu, à voir plus loin que la souffrance, à voir sur ce que Dieu est en train de faire, sur le processus en cours. Regardez la joie et le bonheur qu'il y a en réserve. Et Dieu veut nous rendre saints, pas uniquement pour lui, mais pour nous. Parce qu'il veut, c'est lui qui veut qu'on soit davant. C'est sûr qu'on est saints dans le sens que Jésus-Christ nous a purifiés. Mais la Bible parle aussi du saint, la sanctification, d'être plus près de Dieu, plus avoir une foi plus éprouvée, une plus grande confiance en Dieu. C'est sûr qu'on ne peut pas nier la souffrance. Et Dieu permet sur notre chemin des frères et des sœurs qui ont beaucoup de compassion, qui vont nous aider. Et Dieu, dans sa parole aussi, il nous dit qu'il est Dieu de toute consolation. Et n'hésitez pas à vous confier à un ami si vous souffrez. Pour ne pas dire « Ah, moi je suis chrétien, je mets ma confiance en Dieu, comme Yvan a dit ce matin, comme la parole de Dieu dit, puis ça va bien aller. » Oui, ça va aider. Mais vous avez besoin. Dieu a créé des frères et des sœurs. Il y a des groupes de vie, des cellules de prière. Dieu a mis des frères et des sœurs sur notre chemin pour qu'on puisse s'entraider, parce qu'il savait que c'était difficile de passer au travers tout seul. Donc, utilisons le réseau de frères et sœurs, d'amis, de conjoints, d'enfants ou de parents que Dieu nous donne pour parler de notre souffrance, pour demander que quelqu'un prie avec nous. Ça va nous aider à passer au travers. Ne soyons pas seuls dans l'épreuve. Et quand on est deux à prier, l'épreuve est plus facile à supporter. Mais par-dessus tout, le but de mon message ce matin, c'est que Dieu nous aide à réaliser la joie qu'il en réserve pour nous pour l'éternité. Si vous voulez, on va jusqu'au bout dans la prière. Merci, notre Seigneur, parce que le meilleur est à venir. Seigneur, il faut se rappeler que le meilleur est à venir. Et notre Dieu, merci pour ta consolation, merci pour ton soutien dans la souffrance. Et notre Dieu, nous sommes humains, nous sommes dans un corps, nous souffrons de bien des manières. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à nous lancer dans tes bras, Seigneur. À te faire une confiance totale en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mais toi, tu sais où tu t'en vas. Et tu nous le dis clairement dans ta parole, noir sur blanc. Et Seigneur, je veux regarder plus loin et ne pas m'apitoyer sur mon sort, mais regarder, Seigneur, à la joie que tu me réserves et à la joie d'être en ta présence pour l'éternité. Et merci, Seigneur, parce que pendant ce pèlerinage sur la terre, tu pourvois des frères et des sœurs pour me soutenir, et tu pourvois surtout à ton esprit, Seigneur, qui me réconforte, qui me fortifie et qui va m'aider à passer au travail. Et merci, notre Dieu, pour ta puissance et pour ton intervention dans nos vies. Et Seigneur, on ose dire merci pour les épreuves, parce qu'on sait que c'est toi qui fais ce travail-là et que tu sais pourquoi tu le fais. Amen.